Bonjour, vous écoutez Radio Panique, nous sommes le vendredi 30 septembre, il est exactement midi et c'est l'heure de pointe effectivement. Aujourd'hui on a des invités dans l'heure de pointe, Fanny Henrard et Margot Carpan, bonjour.
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 Vous êtes deux des quatre co-réalisatrices de Maelstrom, qu'on va écouter maintenant, qui est un travail de fin d'études, un documentaire, une création sonore, une création radio sur le thème de l'amitié entre femmes. Et on a aussi en studio une nouvelle voix.
Bonjour.
À Radio Panique, dans l'heure de pointe. Élie, bonjour.
Bonjour.
Et donc, on se propose d'écouter d'abord Maelstrom, et puis d'en discuter après. Vous êtes là pour ça, pour un peu nous expliquer comment tout ça s'est passé. Et Élie, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on écoute.
Oui, tout à fait. Par écrit, il y avait une petite description pour des trigger warnings pour le podcast.
Ouais, et à la radio, il faut le faire oralement.
Ouais, voilà, il faut le faire oralement. Et du coup, on voulait juste préciser que ce que vous allez écouter, il y aura des mentions de violences conjugales et de suicides. Voilà, mais on vous souhaite quand même une bonne écoute. Voilà.
Ouais, Élie, Fanny, Margot, on se retrouve dans 27 minutes, 45 secondes exactement. On écoute Maelstrom. À tout de suite.
Depuis l'an 2033, des centaines de plages sont prises d'assaut par des colonies entières de méduses. La Playa Paraiso, autrefois l'une des plus belles plages du monde, est désormais interdite aux baigneurs. À la place, on y trouve des métaméduses sirotant des cocktails en monokini. Comment celles-ci, d'apparence si fragile, sont-elles parvenues à conquérir le territoire des hommes? Grâce à une technologie de dernier cri, le Cnidophone K3000 nous permet d'entrer en communication avec elles.
Il n'y a personne d'autre que tes amies filles qui vont comprendre ce que tu ressens dans la société.
Je suis hyper reconnaissante de mes amitiés parce qu'elles m'ont montré qu'on n'avait pas besoin d'être en couple pour pouvoir donner de l'amour et pour pouvoir en recevoir.
Je savais que j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés ou sinon j'y arriverais pas.
Ça nous faisait rire genre nerveusement, mais en même temps...
On a fait quelque chose d'interdit quand même. Hein.
C'était trop important comme truc à faire, quoi. C'était vraiment dans le but de faire plus que juste parler entre nous.
Et ça a fait tout changer dans ma vie. Tout. Tout.
Maelstrom. Un podcast sur la puissance des amitiés entre femmes. Longtemps, les hommes ont cru les méduses peu dignes d'intérêt. D'abord fascinés par leur beauté délicate, ils ont très vite conclu que leur absence de cerveau en faisait des créatures primitives et inconsistantes. Elles étaient, selon eux, incapables de nager et n'avaient d'autre option que de se laisser porter par le courant. Elles finissaient alors invariablement par s'échouer sur les plages aux grand dam des baigneurs.
On était un groupe de cinq super copines. Et donc, on faisait de la danse, toutes les cinq au conservatoire. Et donc, c'était assez intense. On avait beaucoup de cours. Et puis, c'était aussi un endroit où on était vraiment à la maison, quoi. On passait beaucoup de temps à traîner dans les vestiaires et à faire un peu les folles. Et on arrivait souvent en retard en cours. Si bien qu'une fois, on était arrivé tellement en retard que la prof de danse classique ne voulait plus nous accepter dans son cours. Et donc, on avait quand même peur de se faire taper sur les doigts à la fois par les profs de danse et aussi par nos parents. Et donc, il faut savoir que la copine avec qui j'étais fêtait son anniversaire quelques jours plus tard. D'office, on se monte la tête, on se dit « ça va être l'annulation de la soirée d'anniversaire, quoi. » Il fallait bien qu'on trouve un mensonge pour justifier notre retard. Ce qui semblait évident, c'était de dire que ma copine avait eu ses règles et donc avait taché son collant. Donc on est arrivé en retard à ce cours de danse, on n'avait pas été accepté. Genre, on s'était retrouvés dans les vestiaires, genre, à se piquer le bout du doigt. On avait toutes donné notre sang pour le mettre sur son collant. Fallait soutenir notre copine et surtout, fallait qu'on fasse cette soirée d'anniversaire.
Après l'action, elles sont euphoriques. Euphoriques d'avoir été jusqu'au bout du plan, heureuses de ne pas avoir fait ce qu'on leur a appris, baisser la tête et se recoudre entre elles. Personne n'apprend aux filles le bonheur de la revanche, la joie des représailles bien faites, et personne ne leur dit que rendre les coups peut faire fourmiller le cœur.
Mon père avait décidé donc de me placer dans un établissement qui pensait être sévère et qui allait pouvoir me recadrer un petit peu.
On était un petit peu rebelles, enfin on n'en pouvait plus de cet uniforme et de ces règles.
Je n'aime pas les règles, je n'aime pas les lois, j'aime faire ce que je veux et là-bas ils n'aiment pas ça. Donc oui, elle m'a suivie dans cette idée un peu folle.
Nous avons mis notre pipi dans l'eau de Pinitier. Il fallait mouiller ses doigts dedans puis faire le signe de croix. Nous, on était tout derrière et on rigolait en voyant tous ces gens.
Aller à la messe et se signer avec l'eau bénite dans laquelle on avait mis de l'urine. Comme c'est une des premières bêtises qu'on a faites rien qu'à deux, donc en fait ça nous a liés. Ça nous a liés encore plus. Je me suis dit tiens, avec elle je vais pouvoir déconner quand même.
Ce n'est en effet pas tant qu'on se rassemble entre femmes qui les choque. Quand ce sont des clubs de tricot, des associations de mères ou des réunions Tupperware, rien ne pourrait moins les intéresser. Mais ces moments ne sont pas bêtes et sont loin d'être inutiles. Nos clubs de tricot et nos soirées pyjama sont importantes et géniales. Car la solidarité des femmes n'est jamais frivole. Elle est toujours politique. Nous avons le pouvoir de créer des espaces-temps au cœur desquels nous ne servons pas les intérêts des hommes. Ou, hors de nos champs de vision, ils ne peuvent que flotter dans l'air, et seulement si on les invoque. Où on est libre de dire d'eux ce qui nous chante, et aussi de ne pas parler d'eux du tout. Au contraire, de faire de la place pour tous les autres sujets du monde et de nos vies. Il y a là la certitude de trouver la nourriture métaphysique dont on a si cruellement besoin, car ces no man's land sont des zones où nos craintes, nos joies et nos colères ont le droit d'exister. Et il y a surtout le refus d'être divisé, dans un monde qui voudrait que les femmes n'existent qu'en opposition les unes aux autres. Femmes, rassemblons-nous. Nos forces conjuguées sont redoutables et redoutées.
Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis, mais vraiment pas d'amis, pour des circonstances de la vie, que j'avais déménagé de pays, qu'au début, quand j'étais petite, je parlais pas la langue, etc. Mais vers l'âge de 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à faire des amis et aussi à militer dans une assemblée féministe en même temps. C'était vraiment le changement pour moi de d'un coup changer de personne et ne plus être quelqu'un qui se fait petit, mais plutôt quelqu'un qui veut son espace et qui va prendre son espace. C'est vraiment mes amis qui ont commencé à m'encourager tout le temps en mettant cette différence que moi j'avais, qu'au début c'était un complexe, comme mon drapeau pirate un peu, non? Je pense maintenant à Eva spécialement. C'est quelqu'un avec un œil magique un peu. Elle arrive trop bien à voir ce qui se passe, à savoir comment quelqu'un il est vraiment. Et elle me disait que je savais quoi lui dire pour faire que son cœur il aille mieux. Elle m'a fait à plusieurs reprises me rendre compte que j'avais mon petit pouvoir et que ce pouvoir-là, c'était le pouvoir de la parole, de faire se sentir mieux aux autres. Et peut-être que pour les autres, c'est un tour tout con, mais comme moi, je suis poète, et ben ça m'avait beaucoup touchée. Et pour moi, ça me donne confiance en moi et ça me fait dire que j'ai aussi un pouvoir qui est mon pouvoir, non?
1, 2, 3, 4.
Mon ami a les plus beaux yeux, qui voit la nature de mes cieux, qui embrasse doucement mon enfer pour que je dorme à poings fermés. vers mes folies sous son bruit. Celui des rires, celui des cris. Me guide au large vers l'horizon. Pour un instant. Puisque le cœur l'emporte, mon ami. Mon amour et le tien sont réunis. Une graine est enfin plantée. Philia devient Agapé.
Au début du XXIe siècle, les hommes, souhaitant profiter des plages et faire trempette sans risquer de se faire piquer, installèrent des filets sur les côtes. Ces filets acérés représentent encore aujourd'hui un réel danger pour les méduses. Chaque année, des milliers d'entre elles s'y retrouvent prisonnières, ne parvenant pas à se soustraire au courant.
J'ai vécu avec un homme violent pendant 4 ans.
Très, très manipulateur et centré sur lui-même, très centré sur lui-même. Il s'aimait beaucoup.
Je l'ai rencontré à Rouen.
Il devait avoir quoi, 25 ans, quelque chose comme ça, donc encore une jeune fille, quoi, on va dire.
J'allais me présenter pour un travail et quand je l'ai vu, je suis sortie de son bureau, mais complètement déboussolée. Je ne savais même plus si je devais prendre à droite ou à gauche. Je n'ai plus jamais eu ça de ma vie, c'était pour un homme de 20 ans plus âgé que moi.
Je sais qu'elle était sa secrétaire, qu'il était le patron.
Il était marié, il avait 2 enfants.
Donc elle a vécu avec lui en France.
Et puis quand j'ai décidé de le quitter pour revenir sur Bruxelles.
Il est venu la rejoindre 2-3 mois après, parce que je l'ai hébergé pendant 2 mois à la maison. Insupportable.
Je n'arrivais pas à le quitter parce que je l'avais vraiment dans la peau.
C'était pour rendre service à Camille, non pas à lui. Donc le temps qu'il puisse, parce que Camille était retournée chez ses parents, donc c'était le temps qu'il puisse se trouver à chez eux, quoi, tout simplement.
Les premières périodes, ça a été...
Ils se sont trouvés un petit appartement au rez-de-chaussée.
Et la deuxième phase, ça n'a plus été du tout.
Elle avait du mal à le quitter, elle a essayé plusieurs fois, elle l'a viré de l'appartement, mais bon, voilà, c'est un gars, que le soit par la porte, il rentre par la fenêtre, c'était impossible.
Marianne connaissait tout ce qui me faisait subir.
J'étais en colère. Pas contre Camille, bien sûr, hein, c'est la colère qui a pris le pas. Donc, un soir,
j'en pouvais plus. J'ai appelé Marianne, j'ai dit, écoute Marianne, ça va plus du tout, parce que là, il est en train de se mettre une corde autour du cou et tourner avec un bout de bois au bout de la corde pour s'étrangler.
Une menace de suicide de trop, sans doute.
Et donc là, c'était la der des der. Je savais bien que si j'avais pas Marianne ou quelqu'un à mes côtés, il m'aurait encore eu et il m'aurait dit à la frontière, écoute, je t'aime, on fait demi-tour, et j'aurais encore fait une énième fois demi-tour.
Il faisait 1m90, il faisait du judo, mais ça m'était égal. Je ne voyais qu'une chose, c'est qu'il fallait qu'il s'en aille. Et j'ai fait en sorte qu'il s'en aille.
Marianne l'a regardé, lui a dit « Alors, mon petit bonhomme, elle est où ta valise ?» Et donc Alain a pris une valise, on a mis toutes ses affaires dedans.
Il n'aurait jamais cru ça parce qu'il m'a demandé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « À ton avis, je suis en train de préparer une choucroute, je fais tes valises là. »
Et donc on a reconduit cet homme-là.
En pleine nuit, on est arrivé vers minuit à Amiens, on lui a dit « Allez, j'ai dit à Camille, t'as 5 minutes pour lui dire au revoir. » Et on est rentré avec Camille en pleurs. Voilà. Et sans Alain.
Évidemment, il a fallu quelque temps pour que je m'en remette, mais avec Marianne, ça a été, elle m'a beaucoup aidé à ce moment-là, à cette période de ma vie.
Je l'ai fait à sa place, mais c'est ce qu'elle voulait. Hein. Je ne l'ai pas obligé. Camille, je ne l'ai pas obligé. Lui, un petit peu quand même.
Le maintien de l'hétérosexualité par défaut apparaît comme une évidence. Il est un outil de contrôle, un outil de maintien de l'ordre, un outil de répression identitaire et individuelle, un outil de domination. Et la justification de cette violence par une société tout entière qui préfère apprendre aux jeunes adolescents et adolescentes que souffrir, c'est aimer, alors qu'aimer, c'est être libre.
Je suis tombée amoureuse durant l'été entre la fin de la réto et la première année à l'UNIF, ce qui fait que j'avais plus vraiment de place pour mes amitiés. Et la relation dans laquelle j'étais, en plus, elle était toxique. La personne avec qui j'étais était très pessimiste et avait tendance à me rabaisser. Et en fait, je me plongeais totalement dans cette relation, dans le sens où je partageais tout le temps sa bulle. Et ce qui faisait que même quand j'avais la possibilité de voir mes amis, en fait, je me sentais plus à ma place et j'arrivais plus à profiter des choses parce que c'est comme si j'avais un peu perdu le goût de ce que j'étais à la base, en fait. Je savais pas à qui en parler. Et il y a un jour où je suis un peu arrivée à bout et j'allais tellement mal que mes amis s'en sont aperçus. Et donc, quand je leur ai tout expliqué, c'est là qu'on a pu aussi renouer réellement notre amitié et qu'on a pu se réouvrir les unes aux autres. On n'était pas seuls, même si on s'était plus beaucoup vus. Ça m'a aidé à passer le pas de quitter la personne avec qui j'étais. Et j'avais peur de ne plus recevoir d'amour, j'avais peur de ne plus pouvoir donner autant d'amour que ce que je faisais quand j'étais en couple. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été une période qui était pleine de joie, pleine de vie, pleine d'amour, où j'ai pu retrouver mes amis et j'ai pu aussi me retrouver moi-même. Et je suis vraiment reconnaissante parce que grâce à mes amitiés, je ne suis plus dépendante affective dans mes relations amoureuses.
Lo primero que conocí,
la primera cosa que se conocí,
fue la disposición de todo aquello que vale,
de todo lo que
vale, de todo lo que vale,
familia, amor, sentido,
nada para sostener mi corazón,
rien pour soutenir mon cœur,
la tristeza dans les yeux. Mientras erraba,
pendant que j'erré,
la vida puso en mi camino a las que hoy,
celles qui aujourd'hui sont mes amis.
No fue fácil aprender a amar
avec les mains ouvertes,
les pieds immobiles,
apprendre à aimer
para no pisarnos,
pour ne pas nous marcher dessus.
Descubrimos el poder, la fuerza,
notre force.
Fuimos capaces de enfrentarnos
Fuimos
al miedo,
de enfrentarnos al miedo.
Juntas,
juntas,
ensemble.
Pas comme des faisceaux romains,
pas comme des faisceaux romains,
mais comme des lances amazoniennes tournées vers les ciels,
dispuestas para la batalla,
prêtes pour la bataille.
Gritos de valor,
des cris de courage,
se apoderaron de nuestras gargantas.
Nous étions si heureuses,
fuimos tan felices,
si fortes,
tan fuertes,
jusqu'à oublier
que olvidé que lo primero que conocí,
que d'abord
fue,
j'ai connu
la nada.
Face au danger que représentent les filets, les méduses doivent déployer de nouveaux moyens de survie. Certaines tentent de se faufiler entre les mailles, mais la structure, bien ficelée, leur laisse peu de liberté de mouvement. D'autres piquent les baigneurs un peu trop curieux, les poussant ainsi dans leur retranchement. Enfin, certaines développent en groupe des techniques de nage à contre-courant.
Le coup de garde, c'est une page Facebook féministe qu'on a créée en 2015 ou 2016. On s'est rencontrés en secondaire, on était 6. On était assez complémentaires parce qu'on était vraiment toutes les 6 très différentes.
Pendant 8 ans, on a été vraiment le socle du soutien l'une de l'autre.
Je me sentais soutenue et surtout entourée.
L'élément déclencheur de cette page, ça a été le fait qu'une fille de la team a été victime de menaces.
Ouais, c'est parti d'un mec qui du coup m'avait fait du chantage. C'était un truc énorme parce que... Vu que on était toujours là à défendre les filles qui se faisaient harceler ou qui se faisaient et on en entendait souvent même des filles de nos écoles ou de notre région qui avaient leurs photos qui avaient fuité etc. De devenir cette fille là à 15 ans, ça fait flipper. C'était horrible comme moment. Si je réponds pas à sa menace, je perds le contrôle et je peux rien faire en fait. Et je sais pas, on s'est dit que... En fait, on parlait quand même souvent féminisme et on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose qui était plus que juste en parler entre nous.
Au moment où elle nous en a parlé, j'ai vraiment eu une vague de colère, mais noire. Vraiment, je me suis rarement sentie autant en colère de ma vie. Et donc, je pense qu'on a, essayé de prendre cette colère et d'en faire un truc constructif. Donc, après avoir envoyé un message bien senti au monsieur qui avait fait les menaces, on a créé le coup de garce. Et c'était vraiment chouette, en tout cas, de se partager des articles, de se partager des trucs qu'on trouvait sur Internet et qu'on se dit « Regarde ça, c'est trop fou, on n'y a jamais pensé. » Et en fait, c'est vrai, ça, c'est un truc qu'on vit aussi. On ne savait pas que c'était une expérience universelle. Ça a été vraiment aussi un vecteur de notre conscientisation de féministes. Ça nous a vraiment forcé entre guillemets à aller plus loin dans notre réflexion et en fait ça a été vraiment un petit moyen pour nous de faire passer des messages aux adultes de notre entourage, à nos parents, à certains professeurs, aux adultes qui n'avaient pas forcément conscience de ce que nous en tant que jeunes filles de 15 ans on vivait.
Et c'est sûr que d'avoir un entourage très compréhensif de copines, pouvoir se rappuyer dessus, bah ça a aidé de fou. De te rendre compte que c'est pas ta faute, c'est pas parce que toi t'envoies des photos à une tierce personne dans un contexte privé, ça n'a rien à faire dans les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça aide à te rendre compte que t'es pas toute seule, quoi.
La solidarité, ce n'est pas simplement le soutien. Le soutien peut s'exprimer par intermittence. On peut le reprendre tout aussi facilement qu'on l'a donné. La solidarité nécessite en revanche un engagement durable et permanent. Le mouvement féministe a besoin de la diversité, du désaccord et de la différence pour grandir. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous unir, tant est riche le trésor d'expériences, de culture et d'idées que nous pouvons partager entre nous. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons contre l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique.
Une fois les techniques de nage bien apprises, les méduses développent un puissant sentiment de solidarité. Elles décident de venir en aide à leurs camarades restés au front et de détruire les filets. À l'aide de leurs tentacules, elles s'interconnectent pour former un véritable réseau de liaisons nerveuses. Elles deviennent des métaméduses dotées d'un cerveau redoutable, celui de l'intelligence collective. Elles sont alors capables de déclencher un maelstrom, un tourbillon, détruisant tout sur son passage. C'est ainsi que nos amis sont parvenus à se libérer des filets de la Playa Paraiso.
Mon premier secours, parler avec mes amis à chaque fois que je me sens une merde, parce qu'ils sont là pour me dire la vérité, c'est que je suis une fleur et pas une merde.
Ça m'a vraiment permis de me sentir moi-même et d'être légitime dans la personne que j'étais.
À identifier les moments où j'ai pas envie de jouer le jeu social. Et en fait, à partir du moment où t'es avec des personnes qui vont accueillir tes décisions, tu te sens super soulagée, en fait, de pas avoir à te justifier en permanence.
L'amour passe pour moi, mais l'amitié est une forme d'amour.
C'est aussi une façon d'être plus à l'aise avec l'intimité, d'explorer l'intimité.
Il y a un stade que je peux dépasser avec certaines personnes.
Ça va se manifester par plein de choses, mais par des gestes, des noms, des petits mots doux qui témoignent l'amour qu'on se porte. Et
se dire qu'on peut avoir ça avec des personnes qu'on connaissait pas il y a quelques années, je trouve ça trop beau.
Comment, en venant des endroits aussi différents, on peut réfléchir d'une manière si similaire à chaque fois. Ça me donne de la puissance parce que je me dis qu'ils me comprendront.
Ça m'apprend à rester ancrée dans mes valeurs. Par exemple, les blagues un peu racistes, etc., elles ont eu l'habitude de pouvoir en balancer à fond sans que je dise rien, alors que maintenant, ce sont des choses qui passent plus.
J'ai beaucoup d'amis au caractère et personnalités très différents les uns des autres, et ça m'a permis aussi d'être inspirée par elle et d'explorer toutes ses facettes à la fois chez elle et du coup par extension chez moi aussi, quoi.
Je remercierai jamais assez toutes ces filles d'avoir croisé mon chemin et de m'avoir permis de me rendre compte de plein de choses.
Ça a été le vecteur de notre prise de conscience de tout ce qui était politisé dans notre vie. La politique que tu te dis, oh, c'est bon, les hommes politiques, c'est des hommes en costume qui prennent des décisions qui ne te concernent pas. Et en fait, tu deviens adulte, tu te dis, ah, en fait, ces gens-là, les hommes en costume, ils prennent des décisions qui ont rapport avec moi. Dans les écoles, pas t'habiller comme tu veux parce que c'est dans le règlement. Ta contraception que tu vas commencer à avoir au milieu de ton adolescence, ça a été des décisions prises dans les années 70, dans les années 80. En fait, tu te sens pas représentée, tu te dis, mais enfin, pourquoi est-ce que ces décisions ont été prises? Nous, en tant que femmes, on pense pas comme ça, on n'est pas comme ça, on voudrait ça. On a vraiment pris conscience que nos décisions sont influencées par la société et que ça doit pas forcément l'être.
On est toujours empouvoirés avec les autres, non.
Le fait de le faire à plusieurs et d'avoir un soutien constant, ça t'aide à te dire, ok, ça vaut la peine.
Tu seras toujours beaucoup moins vulnérable si t'as des amis à côté de toi, si t'as des bons amis. Vraiment, l'amitié entre femmes, c'est empouvoirant en elle-même.
Ne porte à croire que ce type de comportement soit propre à une seule espèce de méduse. Au contraire, les scientifiques estiment que toutes les méduses sont capables d'évoluer en métaméduses. Combien de temps vous reste-t-il pour profiter de vos plages? Maelstrom. Par Margot, Elodie, Fanny et Lisa. Avec Apolline, Marianne, Camille, Souhaïla, Emmanuel, Clara et Julia. Un tout grand merci à Barbara Dupont et Guillaume Abgral, ainsi qu'à toute l'équipe encadrante de l'IEX pour leur accompagnement. Avec le soutien de Bruxelles nous appartient. C'était Maelstrom, un podcast sur la puissance des amitiés entre femmes.
Vous écoutez Radio Panique, nous sommes dans l'heure de pointe, il est midi 29. Fanny et Margot sont avec nous, et Ellie aussi, pour un peu discuter de ce qu'on vient d'entendre, Maelstrom, donc ce podcast, puisque c'est comme ça que vous avez décidé de l'appeler, ce documentaire radio peut-être aussi, que vous avez réalisé dans le cadre de vos études à l'IEX. Et je vous remercie d'être là, déjà, pour en parler. J'avais une première question sur le fait d'avoir travaillé à quatre. Vous n'êtes que deux, il y en a deux qui manquent, mais j'imagine que ça implique des tas de choses, et c'est peut-être pas sans rapport aussi avec votre propos et avec ce dont vous aviez envie de parler.
Oui, donc en fait, de base, on est deux groupes de très bonnes copines, et voilà, maintenant, on est un groupe de quatre amies. Et donc voilà. Ici, évidemment, Elodie et Lisa n'ont pas pu être là. Lisa, elle est au Canada. donc c'est entre autres pour ça. Et oui, c'est pour ça qu'on a décidé de parler d'amitié entre femmes. Au début, on parlait de relations entre femmes, mais on cherchait un créneau qui nous corresponde vraiment. Et par nos expériences personnelles, on s'est rendu compte que c'était très dévalorisé et on avait envie de rendre juste valeur à ces amitiés.
Ellie, peut-être ?
Oui. Justement, tu es partie sur le sujet. Du coup, le sujet est venu de soi, entre vous quatre ?
Oui, un peu. Enfin, en fait, on était vraiment deux duos de super, super copines. En fait, c'est dans le cadre d'un mémoire qu'on fait ça. Donc, il y a eu toute une phase de réflexion qui a pris déjà plusieurs mois pour savoir vraiment vers quoi on voulait aller. Et l'amitié, c'était quelque chose qui était hyper important dans nos vies à toutes les quatre, en fait, et qui était un vrai pilier. Et on est parti de là, en fait, simplement de comment ces liens d'amitié entre les femmes et plus largement entre les personnes sexisées, en fait, sont des espaces de soutien, sont des espaces de discussion, de liberté, de parole, de réflexion, de solidarité. Et on a aussi, dans nos recherches, remarqué à quel point, pourtant, ces liens sont dévalorisés, en fait, dans plein de contextes sociaux, dans la société, mais aussi beaucoup dans les représentations cinématographiques ou littéraires. Et voilà.
Est-ce que le travail collectif, c'est quelque chose qui va de soi à l'école quand on fait ce genre de travaux, donc on est dans les travaux qui correspondent plus ou moins à la fin des études, c'est des choses que vous faites de toute façon collectivement, ou bien il y avait vraiment un choix de votre part de travailler de façon collective en rapport avec le sujet qui vous intéressait ?
Alors c'est collectif de toute façon, mais on travaille ça. En fait, on se met en groupe selon des mêmes valeurs ou des mêmes envies. Et évidemment, pour nous ici, ça faisait énormément de sens de travailler collectivement là-dessus. Et je pense que la thématique, elle est venue aussi du fait qu'on travaille ensemble et qu'on s'entend bien et qu'on est amis, en fait. Clairement, ouais. Donc pour nous, c'est hyper important. Et on n'est que quatre, en fait. On n'est pas tant que ça. Il y a des projets qui se font à beaucoup plus, mais ça nous a permis d'avoir quelque chose d'un peu fort. Et aussi, en fait, toutes nos participantes, toutes nos témoignantes, ce sont des proches à nous. C'était un choix volontaire de créer vraiment un projet, de montrer que c'est possible de faire quelque chose, d'arriver à quelque chose à porter un peu politique entre amis, quoi.
C'est justement toutes ces voix, j'ai l'impression aussi une volonté d'avoir vraiment une grande diversité de voix, d'accents, d'âges. Alors l'âge, c'est difficile à la radio, mais enfin on entend quand même aussi des âges très différents les uns des autres. Il y avait cette volonté d'avoir un spectre très très large, même si vous partez de votre entourage direct.
Oui, c'est ça, tout à fait. On voulait une diversité pour que chaque personne puisse se retrouver un maximum dans ses histoires. Et se rendre compte que voilà, l'amitié, c'est vraiment quelque chose d'universel et qu'on vit toutes ces choses-là et que c'est empouvoirant.
Avec un travail sur les voix, du coup, qui est très agréable, je trouve, parce qu'on entend vraiment du grain de voix. C'était, j'imagine, aussi tout un travail de votre part d'arriver à ça, avec aussi des voix qui se chevauchent, mais qui restent très très distinctes les unes des autres. C'est un travail qui vous a pris longtemps, qui est une première expérience sur ce genre de technique, ou bien vous avez déjà travaillé ce genre de choses avant?
On a déjà eu l'occasion, pour ma part, Elisa, je pense qu'Elodie aussi, toi Fanny, je sais pas comment t'es arrivée plus tard.
Oui, non, moi, c'était ma première expérience avec la voix.
Mais on a fait un petit peu du podcast, mais alors c'était des formats beaucoup plus courts. Et vraiment un peu, au début, c'était pour... On pataugeait un petit peu, quoi. Et ici, c'est vraiment la première fois qu'on, qu'on fait un travail un peu plus complet, on va dire. Et oui, ça nous a pris du temps et on s'est beaucoup amusé. C'était très chouette à faire. Et ces trucs de montage, d'enregistrement, oui, c'est des choix. L'enregistrement, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on avait pensé dès le début. On voulait vraiment quelque chose de très intime et où on sent une proximité avec la voix. Et le montage, c'est venu un petit peu par la suite. On avait très envie de faire des montages en parallèle parce que, justement, pourquoi parler d'amitié seule, en fait ? Donc, évidemment, il y en a qui sont seules parce que leurs amis ne sont pas là. Par exemple, Souhaïla, Eva, son amie, elle est en Espagne. Mais pour Marianne et Camille, pour Julia et Clara, pour nous, ça faisait énormément de sens qu'elles en parlent à deux, en fait.
Mmh. Mais vous les avez enregistrées séparément ?
Oui, on les a enregistrées
elles
séparément.
Elles sont à deux par le montage.
C'est ça. Et par la pensée.
Et c'est vrai qu'on a aussi eu une aide, bah on le dit à la fin du podcast, Bruxelles nous appartient, sur la finalité du montage. Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser. On a fait une grosse partie du travail, mais on a eu...
Vous avez travaillé avec Flavien ?
Oui,
exactement,
pour le mixage. Bien connu de nos services, puisqu'on l'entend sur cette antenne chaque mois.
Du coup, moi, je me demandais... Donc les interviews, vous les avez faites peut-être séparément, pas à quatre à chaque fois. Et du coup, le montage, etc., est-ce que vous avez tout fait à quatre ? Ou est-ce que vous avez divisé un peu le travail comme vous avez fait ?
On s'est pas mal divisé le travail quand même. En fait, les interviews, on a un peu toutes participé, en général. Mais évidemment, pas... À chaque fois, on n'était pas quatre à interviewer une personne, parce que c'est un petit peu impressionnant. Mais ça, je pense qu'on l'a toutes fait. Et en fait, les interviews, on les a faites en plusieurs fois. Si on avait une pré-interview, où on laissait... Il n'y avait pas de préparation, on posait les questions, on voyait ce qui sortait. Et après, on faisait en général une deuxième interview pour juste voir... avec la participante, ce dont elle avait envie, enfin ce qu'elle avait envie d'approfondir en fait, dans cette partie-là. Donc pour ça, on a travaillé pas mal à quatre. Après, on s'est départagé parce qu'on a aussi un compte Instagram assez actif, participatif, qui prend énormément de temps. Et donc c'est beaucoup Elodie et Fanny qui s'occupent de cette partie-là. De tout ce qui concerne les visuels. En fait, ça dépendait des compétences de chacune, quoi. Comme on est assez complémentaires quand même. Elodie, elle est assez douée dans tout ce qui est visuel. Moi, je suis terrible. Donc, on s'est fait confiance, en fait. Pour le montage, on a déroché aussi ensemble, en fait, toutes les quatre. Et la partie montage, c'était beaucoup Lisa et moi. Et voilà, ouais.
Tout ça sans aucun problème pour partager. on sait ce que ça peut représenter, la figure de l'auteur dans notre monde, qui est généralement une seule personne, souvent un homme, parfois une femme, quand même, et qui n'est pas un rôle que les gens imaginent toujours possible à diviser. Vous n'avez eu aucun souci à diviser cette casquette, à la partager à quatre ?
Pas
bien,
trop.
Il y a de temps en temps eu des choix difficiles où vous n'étiez pas d'accord quand même.
Oui, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord. Hein.
Et c'est normal, c'est comme ça qu'on avance aussi, je pense. Mais en général, on a bien communiqué, on s'est dit, voilà, moi, j'ai plus de compétences là-dedans, ou moi, j'en ai pas trop là-dedans, mais j'ai envie d'essayer. Et voilà, et on a su, je pense, faire chacune notre part du job, et personne n'est... On n'est pas frustrés, je pense.
Non, j'ai pas le souvenir d'un... Je sais qu'il y a eu des... En fait, on discute beaucoup. Parfois, on avait des réunions très longues, et je pense que c'était important, en fait. On parlait beaucoup parce qu'on avait envie d'arriver à un accord, quoi, qu'il n'y en ait pas une qui se sente complètement lésée. Et en général, ça fonctionnait. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment des moments de frustration terrible de la part de l'une ou l'autre. Et au niveau du partage de l'authorship, je sais pas trop comment dire ça, mais... Bah pareil, c'est un projet qu'on a mené à quatre dès le début, donc non, ça a pas posé problème, je pense.
Ouais. D'où aussi l'avantage d'être seulement quatre, où on a pu vraiment avoir notre rôle, à jouer, que si on était une dizaine, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on voulait, mais ici on avait vraiment un rôle bien établi, chacune.
Après, on est 4 plus 7.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on estime que nos participantes, elles ont donné de leur personne vraiment énormément. Il y a des poèmes d'Emmanuel et Souraïla qu'elles ont écrits spécialement pour nous. Donc ça nous a fait très très plaisir. Et donc, en soi, elles sont tout aussi autrices de ce podcast que nous.
Je me demandais, vous parliez d'une page Instagram, enfin d'un compte, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais est-ce que vous avez un peu envie d'en parler, puisque ça a l'air de faire partie vraiment du projet aussi?
Oui, alors on a une page Instagram qui s'appelle aussi Maelstrom Podcast. Et donc, cette page Instagram, elle se veut interactive. On avait vraiment envie que le collectif il se traduise aussi dans le fait de faire participer d'autres personnes et d'aller plus loin et de créer vraiment un grand groupe d'amis. Et donc, sur le compte Instagram, il y a des déclarations d'amitié, d'autres témoignages d'amitié. Il y a quelques informations aussi sur l'amitié qu'on ne connaît pas toujours. Et voilà, ici, on fait un appel justement à témoignages pour avoir des personnes en plus qui nous écrivent et qui racontent leur expérience de l'amitié. Et c'est très riche pour nous. Et voilà.
Ok, donc peut-être qu'il y aura un Maelstrom 2. D'autres témoignages ou c'est pas l'idée?
C'est en réflexion.
C'est la grande question. Oui. On ne sait pas encore dire pour le moment. On attend de voir les retours ici du podcast. On a fait déjà un épisode qui était assez long, justement, pour pouvoir mettre assez bien de matière dedans. Mais voilà, on est toujours dans les études pour le moment, donc on ne sait pas trop comment l'avenir se dessine.
Après, on trouverait ça intéressant que ça s'élargisse aussi à d'autres minorités, en fait, parce que nous, on parle de femmes. Et on parle de femmes cisgenres parce que il se trouve que nos participantes sont des femmes cisgenres, mais l'idée c'est vraiment qu'on espère que ça puisse parler à tout le monde parce qu'en fait c'est tout aussi vrai pour toutes les personnes sexisées ou pour d'autres minorités, quoi, que ce soit toutes les personnes qui vivent des discriminations. Je pense que l'amitié c'est un soutien extrêmement important et même plus que ça, pour nous, ça peut aller plus loin et ça peut être vraiment un vecteur de solidarité et de lutte politique, quoi. Voilà.
D'où est venue la métaphore de la méduse? Et qu'est-ce que ça amène comme connotation, selon vous? Parce que c'est un choix qui peut paraître surprenant.
Oui, c'est vrai. On est d'abord parti des tentacules, je pense, qui pour nous représentaient le soutien, le lien entre les femmes en l'occurrence. Puis alors on a fait nos petites recherches sur la méduse et on s'est rendu compte qu'elles se piquaient pas entre elles. Donc nous, ça nous faisait référence à la solidarité entre les femmes. Que certaines vivent en colonie, donc voilà, des groupes d'amis. Et qu'elles sont bioluminescentes, donc notre envie de mettre en valeur ces amitiés, voilà. Donc c'était ça principalement le début, je pense.
Puis elles ont un côté un peu inquiétant, mystique, comme ça. Elles sont dans les profondeurs, elles piquent, mais elles sont très belles. Il y a un peu, pour nous, ça faisait écho à pas mal de stéréotypes, en fait. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec le docu. C'était un peu... le docu-fiction, c'était de mettre en parallèle des caractéristiques qu'on retrouve dans les stéréotypes dits féminins.
Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé... j'aime bien les méduses, et donc ça m'a aussi parlé. C'était chouette.
Nous aussi.
Et par rapport à ce que tu disais avant, Fanny, je me demandais, parce que forcément vous avez dû faire un choix de qu'est-ce que vous mettez dedans, et puis donc peut-être il y aura une suite, mais bon, vous faites des appels à témoignages, donc j'imagine que ça grossit toutes les choses que vous avez envie d'aborder. Et qu'est-ce que finalement il n'y a pas pu avoir dans le podcast que vous vous êtes dit, bon ok, ça c'est peut-être trop gros cette fois-ci, on va le mettre pour plus tard ou pour une autre fois ou...
Alors ouais, on a dû faire beaucoup de choix. En fait, je pense que oui, la partie des rushs, donc choix de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse, ça a été la plus compliquée. Et ça a été celle qui a peut-être posé le plus de problèmes et qui a fait débat entre nous quatre. Parce qu'évidemment, selon les sensibilités, l'importance de certaines choses n'est pas la même. En fait, au tout début, on pensait même faire plusieurs courts épisodes. À un moment, on avait parlé de ça et de se centrer vraiment sur un récit par épisode. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas faire plutôt quelque chose où on voit vraiment, pas se centrer sur un récit en particulier, mais essayer de faire lien entre tous les récits, parce que on parle de lien, en fait. Et donc, oui, on a dû faire énormément de choix. En fait, on a écouté beaucoup plus d'histoires que ça, évidemment. On a gardé celles qui nous paraissaient les plus impactantes ou qui pouvaient parler et qui étaient en même temps très différentes les unes des autres et en même temps qui se rejoignaient sur certains points. Mais on a eu plein d'anecdotes super marrantes ou super touchantes qu'on a complètement choisi de ne pas garder pour cet épisode-ci. Après, peut-être, on ne sait pas, un autre moment. Mais là, comme ça, des sujets... En fait, on a eu beaucoup de sujets de petites bêtises. Marianne et Camille nous ont raconté beaucoup de bêtises de leur enfance. On a choisi le bénitier parce qu'on trouvait ça quand même très, très, très marrant. Vraiment un bel acte de rébellion. Mais il y en a eu beaucoup. Pareil pour Souraïla. En fait, pareil pour toutes. Elles nous ont raconté... beaucoup de choses différentes. Souraïla aussi, il a été question notamment dans une des histoires où on partait sur un peu d'autres sujets qui nous paraissaient extrêmement intéressants travail du sexe ou de débat là-dessus que certaines ont pu avoir. Et puis on s'est dit, c'est un sujet à part entière, en fait. Voilà.
Élie, une dernière question ?
Une dernière question, alors. Oui.
Ou plusieurs, hein, d'ailleurs, si tu veux.
Ouais. Moi, je me questionnais sur vos inspirations. S'il y avait eu des inspirations extérieures qui vous ont aidé à réaliser ce podcast.
Oui. On est assez friandes de podcasts. Donc, on a chacune un peu nos préférences, mais Lisa écoutait beaucoup un podcast à soi. Moi, je venais d'écouter Le Cœur sur la Table.
Moi, c'était plutôt Transfert, tout ce qui est histoire racontée.
Oui, d'ailleurs, Transfert, c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de faire deux interviews, parce qu'on sait qu'ils fonctionnent comme ça. On trouvait ça intéressant. Il y a eu Passage aussi, en niveau sonore, après, au niveau visuel et tout, je ne sais pas trop si vous aviez des inspirations précises ou si c'est vraiment venu de votre tête.
Non, je ne sais pas, je ne me rappelle pas qu'on ait eu vraiment des inspirations. Nous, enfin, on avait choisi de partir sur l'aquarelle parce que ça nous faisait penser à des tâches, à quelque chose d'ancré, comme l'amitié. C'est vraiment un travail qu'on a fait aussi avec nos professeurs. Et puis, non, c'est le fait qu'on a fait tout nous-mêmes, on avait tout dessiné de base, et puis on a assemblé ce qu'on avait dessiné et peint avec Élodie pour faire quelque chose qui nous ressemblait, et qui était sensible, poétique, mais qui faisait un peu haut, méduse, qui faisait un peu peur aussi, donc voilà.
Okay. Du coup, on avait beaucoup d'inspiration, en tout cas sonore, et même pour le compte Insta, c'était amour solitaire aussi, un peu, oui. Des trucs qui se rapportaient aux relations amoureuses, en fait. Et
Je sais pas, je pense que c'est aussi ça qui nous a... On s'est dit, pourquoi pas des trucs sur l'amitié un peu plus?
Bon, maintenant, il y en a d'autres, mais ouais, on trouvait que le podcast, ça pouvait se prêter aussi très bien à des récits d'amitié, pas forcément... Enfin, c'est aussi quelque chose de très intime et politique, comme la sexualité, comme les relations amoureuses.
Et justement, moi, je me demandais si vous avez l'impression d'être politisé avant de faire ce podcast, ou est-ce que ça vous a politisé en le faisant?
C'est une bonne question. Je pense qu'on ne peut pas parler pour tout le monde là-dessus, parce que ça dépend beaucoup de chacune d'entre nous.
Et vous, bah, personnellement, si vous avez envie de répondre à la question?
Personnellement, je pense que je me sentais déjà impliquée, vraiment, et très sensibilisée au féminisme. Mais je ne sais pas à quel point j'étais politisée. Et là, effectivement, en fait, je pense que ce projet, ça m'a aidée, par contre, à me sentir plus légitime de certaines choses, même si on a encore beaucoup de doutes ou de questionnements sur notre légitimité à certains niveaux, mais je me sens quand même un peu plus légitime de parler d'un sujet dont, en vérité, on devrait toutes se sentir légitimes, mais voilà, on est quand même plus informés. En fait, on a eu une phase de recherche très longue et quand même relativement approfondie, où on a écrit, avant de se lancer dans le podcast, on a écrit quasiment un mémoire de 60 pages. Donc ça aussi, ça aide beaucoup, en fait, parce que ça te donne une sorte de poids où tu sais argumenter certaines choses, et ça m'aide beaucoup personnellement pour répondre aux débats qui sont lancés parfois, où je me sens vraiment plus légitime dans ma position, quoi.
Ouais. Bah, je rejoins vraiment ce que Margot a dit. On était déjà sensibilisés à toutes ces questions, mais c'est vrai que le fait de faire quelque chose, de créer un projet avec d'autres femmes, et que voilà, on voit que ça fait écho chez d'autres femmes, bah, ça nous donne de la puissance et ça nous donne de la légitimité de savoir toutes ces choses. Et voilà.
Et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. C'était pour apprendre des choses. Et on voulait faire quelque chose qui nous touche quand même, mais on voulait apprendre beaucoup de tout ça, quoi. Et ça a été le cas.
Est-ce que le fait que c'était dans un cadre scolaire, pour finir, ça a joué sur la façon dont vous avez travaillé, ou bien vous vous êtes senti totalement libre de concevoir ça comme vous le vouliez?
Je pense que ça a joué quand même, on va pas se mentir. Mais ça nous a poussé en un sens à certaines choses. Ça nous a aidé énormément parce que on a des professionnels qui peuvent nous aider si on a un problème. On a du matériel, on a plein de choses. Mais je me suis sentie assez libre quand même dans la création. On a un prof qui nous pousse beaucoup dans le farfelu, enfin dans tout ce qu'on veut, en fait. Vraiment, il nous a toujours beaucoup encouragés, mais tous, en fait. Il nous encourageait énormément.
Dans le farfelu. On aimerait bien savoir de quel prof tu parles.
Je ne citerai pas de nom.
Okay. Ce sera hors antenne, alors.
Oui, c'est vrai que même dans la liberté des sujets, etc., on est vraiment très libre dans notre section d'animation socioculturelle. Et on a des profs qui nous poussent dans la réflexion et qui nous aident à être plus créatifs et créatives et à creuser vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, je pense qu'on avait besoin d'un cadre pour que ça se fasse bien, correctement, d'avoir des ressources nécessaires. Mais la liberté était là. Je pense qu'on ne s'est pas senti vraiment freiné d'une manière ou d'une autre.
Non, pas trop.
La suite du dévoilement au monde de ce Maelstrom, ça se passe comment? Il est écoutable en ligne, réécoutable en ligne déjà maintenant, ou c'est prévu pour plus tard? Il y a d'autres écoutes?
Alors oui, c'est sur, on va pas dire toutes les plateformes d'écoute, mais une majorité de plateformes d'écoute. Donc Spotify, Deezer,
SoundCloud,
ouais, voilà, etc. On fait aussi des écoutes collectives Donc, pour les personnes qui veulent écouter le podcast avec d'autres personnes qui sont là, il y aura aussi un petit débat après, la possibilité d'enregistrer aussi des histoires d'amitié. Et la prochaine date, c'est le 15 octobre à la Vieille Chéchette, qui est un café bouquinerie. Et voilà, on aura une seconde date, mais c'est à confirmer pour les personnes qui ne peuvent pas être là.
Et donc aussi une page Instagram.
Oui, c'est ça.
Qui n'est pas qu'une page de promotion, mais au contraire, partie intégrante du projet.
Oui, c'est ça, Terre au podcast, et on ne voulait pas que ce soit que de la promotion. Donc, il y a vraiment du contenu à retrouver sur la page Instagram Maelstrom Podcast.
Très bien. Eh bien, Fanny et Maragot, on est très contents de vous avoir reçu. On espère vous entendre encore à la radio. Là, vous faites du podcast, mais pour le podcast, la radio, ça se touche quand même un peu. Et pareil pour Élodie et Lisa, qui n'étaient pas là ce midi. Merci d'avoir
merci
été là.
Beaucoup.
Merci Élie.
Merci à vous.
Merci.
Et on retrouve la toute fin de la programmation, l'heure de pointe, puisqu'il ne reste plus que quelques minutes. Puis derrière, ce sera le manche-disque sur Radio Panique. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.
À bientôt.